Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Une petite question avant de commencer. Qui se souvient de ce que le frère Jean-Pierre a prêché dimanche dernier? Sauf toi, hein? Tu ne dis rien, toi. Personne. Voilà. Il a prêché justement sur la responsabilité des dirigeants, des ministres. Hein, il a pris ça dans Timothée 3. Hein, et moi, je veux suivre, mais je ne veux pas vous parler de ministres, de dirigeants, mais je vais vous parler des membres. De membres de l'Église. Car vous savez, un dirigeant, s'il n'y a pas les membres qui sont là, il n'est rien. Il n'est rien. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui ont les épaules très solides, mais s'il n'y a pas les membres derrière, il n'a rien du tout. Et l'Église, il n'avancera pas. Et ce matin, justement, je vais vous parler de ces membres. Le titre de mon message, c'est les habitudes des chrétiens ou de membres efficaces. Les habitudes des chrétiens ou de membres efficaces. Pourquoi j'ai mis membres chrétiens ou efficaces? Parce que vous savez bien qu'un chrétien, qui c'est un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il a reconnu ses péchés et il s'est mis entre la main de Dieu et il a dit, Seigneur, pardonne-moi, je t'accepte. Ce que tu as accompli pour chacun de nous, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Et ensuite, il y a les membres. Bien sûr, on est tous membres du corps de Jésus-Christ, de l'Église, mais il y a deux églises. Il y a l'Église universelle, et à laquelle appartiennent tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, partout dans le monde. Hein, quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, il rentre, il fait partie de l'Église universelle. Et ensuite, il y a les membres. Les membres, qui c'est les membres? Les membres, c'est ceux qui appartiennent, bien sûr, à l'Église universelle, parce qu'ils sont chrétiens. Mais c'est ceux qui appartiennent aussi à l'Église locale. L'Église locale. C'est-à-dire qu'ils sont là pour travailler pour le Seigneur. Voilà la définition. Et ensuite, il y a le mot « habitude ». Les habitudes d'un chrétien ou d'un membre. Qu'est-ce que ça veut dire « habitude » hein? Avoir l'habitude, je regardais dans le dictionnaire, « actions qui sont devenues intrinsèques en raison de leur constante répétition ». Ce sont des choses qu'on fait sans même pas y penser. C'est une habitude. Hein? Et justement, on va voir les habitudes d'un chrétien ou d'un membre. Et ensuite, c'est marqué « efficace ». Ça veut dire quoi? Habitude efficace, le mot même le dit, c'est la qualité de nos vies et de notre service. Une vie efficace et un service efficace. Donc, voilà ce qu'on va parler aujourd'hui de ces habitudes de chrétiens ou de membres, hein, efficaces. Et j'en ai quelques-unes. Il y en a d'autres, bien sûr, hein, mais j'ai pris ceux qui m'ont le plus touché. Vous pourriez en rajouter d'autres. Hein, hein. Voilà. La première que j'ai pris, c'est les chrétiens ou les membres très efficaces, ils sont reconnaissants en tout temps. Et ça, nous le lisons à Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses ou en toutes conditions ou circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est le mot même, elle dit, c'est la réponse du croyant, du chrétien, à tout ce que Dieu, il a fait pour lui, à tout ce que Jésus, il a accompli à la croix, pour lui et à tous ceux que le Seigneur, il accomplit présentement sur la vie de chacun de nous. C'est ça, la reconnaissance, hein, la reconnaissance. Nous sommes reconnaissants pour les choses que le Seigneur a fait pour nous, hein. Dans, je vous le dis souvent, dans nos familles, la première chose qu'on apprend à nos enfants, c'est quoi? C'est de dire merci. Même si des fois, ils ne le font pas. Et même des chrétiens, ils ne le font pas non plus. De dire merci au Seigneur, d'être reconnaissant. Et c'est ce qu'il y a de bien ici, il dit, être reconnaissant, pas pour toute chose. Pas pour toute chose, il dit. Il faut bien faire attention à ce qu'on lit. Il nous dit d'être reconnaissant en toute chose, pas pour toute autre chose. C'est-à-dire que je ne dois pas remercier Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as fait tomber, je suis tombé là. Non, mais en toute chose, dans notre chute, dans les choses qui peuvent nous arriver, nous devons remercier le Seigneur parce que sa main était avec nous. Paul nous l'a dit, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous savez, c'est quelque chose de très important, hein, très important. La gratitude, hein, rendre, être reconnaissant, c'est le berceau de l'adoration. Plus on remercie le Seigneur, plus on dit merci au Seigneur pour les choses que j'ai vécues, que j'ai vues ou que je vivrai, et plus notre cœur sera attaché au Seigneur. Et c'est de là qu'il vient l'adoration. Lorsque nous disons merci au Seigneur, je l'adore. C'est ça la chose la plus importante. Il y a autre chose, les chrétiens ou les membres très efficaces, ils se réjouissent toujours. Et il nous est dit ça dans Philippiens 4. Vous connaissez tous ces versets, hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Hein? La joie, c'est une marque de reconnaissance. C'est une marque du chrétien. Bien sûr, on ne doit pas être, hein, toujours, comme on dit, comme un Bouddha. Vous connaissez les statues des Bouddhas, hein? Toujours avec les sourires. Hein? C'est pas ça que le Seigneur nous demande, mais d'avoir la joie dans notre cœur. Les gens, ils disent, oh, la joie, c'est une émotion que tout le monde a. Non, peut-être oui, peut-être que c'est ça, mais surtout pour nous chrétiens, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Dans Galates, il nous a dit cela. C'est quelque chose que le Seigneur, il a mis dans notre propre cœur pour pouvoir justement nous réjouir en toute chose. En toute chose. Hein? Parce que des fois, la vie, elle n'est pas tout rose, comme on dit. Hein? Mais nous avons la joie du Seigneur en nous. La joie, la paix du Seigneur. Un peu comme le Seigneur Jésus, vous en souvenez, lorsqu'il était sur le bateau, avec la tempête qu'il y avait tout autour. Et les apôtres étaient là, les seigneurs, ils dormaient. Et je prends toujours cet exemple parce que c'est le meilleur exemple pour nous montrer la joie et la paix que le Seigneur il avait dans son propre cœur. Les disciples, ils se sont affolés, ils ont réveillé le Seigneur. Il a dit, mais tu ne t'occupes pas de nous. Et il leur a dit, gens de peu de foi, mais je suis là. De quoi avez-vous peur? Et cette joie, c'est quelque chose que le Seigneur, il a mis dans notre cœur lorsque nous nous sommes convertis. Parce que c'est la joie. Il nous a dit dans Néhémie 8, 10, la joie de l'Éternel, il sera votre force. La joie de l'Éternel, il sera votre force. Et si en tant que chrétien, en tant que membre, on a la joie du Seigneur, nous pouvons affronter toutes choses. Même les choses les plus dures, nous les affronterons avec joie. Pourquoi? Parce que on a cette paix de Dieu plus profonde de nous-mêmes. C'est ça. Hein, ça c'est quelque chose que je dis toujours et j'aime bien cet exemple-là, hein, dans les films de Ben-Hur, lorsque Néron il trucidait les chrétiens et il les mettait sur, il les empalait avec le feu là, hein, et au lieu de crier, il faisait quoi? Il chantait. Et Néron s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils chantent? Ils chantaient parce qu'ils avaient la joie de Dieu dans leur cœur. Ils chantaient parce qu'ils savaient que leur vie, ils s'arrêtaient momentanément, mais pour reprendre lorsque tout de suite ils seront auprès du Seigneur. Car c'est ça aussi qu'en tant que chrétien, en tant que membre, nous devons avoir au plus profond de notre propre cœur, savoir que si on meurt, on va directement auprès du Seigneur. Directement. Nous avons l'exemple d'Étienne, vous en souvenez? Ils l'ont jeté des pierres. Il est mort et il a levé les yeux. Il a vu le Seigneur qu'il se lève pour l'accueillir. Pourquoi ça? Parce que le Seigneur, il nous a ouvert les portes du paradis. Lorsque nous l'acceptons en tant que Seigneur et Sauveur, il nous ouvre le paradis. Voilà pourquoi nous avons cette assurance du salut. C'est quelque chose qu'on a vu qu'on voit le dimanche matin dans notre étude. Nous avons l'assurance du... Celui qui a le Seigneur, celui qui croit au Seigneur, a la vie. Pas il aura la vie, il l'a déjà. Bien sûr, le salut, nous l'avons de maintenant, mais le vrai salut, c'est lorsque nous serons auprès de Dieu. Car c'est là qu'on vivra la vraie vie, sans péché, sans souffrance, sans rien, et constamment auprès du Seigneur. Et c'est ça que chaque membre des églises, chaque chrétien, il doit laisser cette joie du Seigneur devenir notre force. Et si on a cette joie du Seigneur, si on a l'habitude d'avoir le Seigneur constamment avec nous, il peut nous arriver n'importe quoi. Nous allons accepter cela comme le Seigneur il l'a accepté. Comme le Seigneur il l'a accepté. Hein? Il aurait pu réagir différemment, mais non. Il avait dans son cœur rempli d'amour et il a servi pendant ces 3 ans et demi qu'il a fait son ministère, il a constamment servi, hein, et avant de mourir, il nous a encore servi en priant le Seigneur pour lui dire, Père, ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et combien il y a des gens tout autour de nous qui ne savent pas. Demandez à cette période de Pâques bientôt, demandez qu'est-ce que ça signifie la Pâque pour vous. Ah, ils vous diront, ah, les petits lapins au chocolat, les œufs et tout ça. Mais ils vous diront pas, Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ça la Pâque. Et c'est de cette joie-là que nous devons vivre. Et cette joie-là, ça doit être une habitude. Une habitude. Il y a aussi une troisième habitude. Hein? Le chrétien ou les membres, ils doivent prier tous les jours. Prier tous les jours. Il nous est dit en Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Paul, il exhorte les chrétiens, il exhorte les membres à prier sans cesse, c'est-à-dire être constamment en relation avec le Seigneur. Et ça, c'est prier constamment. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'on fait? Au moment où est-ce qu'on se réveille? Qui peut me le dire? On prend son portable. Bravo, bravo, bravo. Tout de suite, on se connecte à notre smartphone. Et c'est exactement ça que Paul nous dit. Au lieu de vous connecter à ces choses du monde, connectez-vous au Seigneur. C'est déjà une prière. Nous n'avons pas à dire des grands mots, mais dire simplement « Merci Seigneur de m'avoir réveillé ». C'est ça, prier sans cesse. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Hein? Nous sommes à, pourquoi? Parce que lorsqu'on prie, beaucoup de gens, ils prient et ils demandent des choses à Dieu. Mais la prière, ce n'est pas seulement de demander, de louer, de l'adorer, mais c'est aussi écouter. Lorsqu'on prie, on doit aussi écouter. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour écouter. Des fois, on n'arrête pas de parler. Et le Seigneur, il aimerait bien nous dire quelque chose, mais nous sommes tellement pris en nous-mêmes que nous n'apprenons pas le temps d'écouter. Et c'est ça, prier sans cesse, d'être constamment connecté au Seigneur. Et bien sûr, si on écoute le Seigneur parler, automatiquement, il y a l'autre mot qui nous avons des difficultés, c'est le mot obéir à ce qu'il nous dit. Parce que c'est pas ce qu'on connaît, mais ce qu'on met en pratique qui compte pour le Seigneur. Et ça doit être une habitude, obéir, obéir. Une autre habitude efficace pour les chrétiens ou les membres, c'est que les chrétiens ou les membres, ils méditent la parole tous les jours. Ils méditent la parole tous les jours. Je vais vous poser une question, si vous pouvez me répondre. Avez-vous remarqué que dans la Bible, il n'y a pas le commandement de lire la Bible ou de lire les Écritures? Il n'y a pas ce commandement. Vous pouvez rechercher, vous pouvez regarder partout. Mais par contre, il y a des méditer, parce que lire, il y a des gens qui lisent 3 chapitres, 4 chapitres par jour et se disent, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que tu en as retiré? C'est vrai que dans Proverbe 4:21, il nous est ordonné d'écouter les paroles de Dieu, d'écouter. Que les paroles du Seigneur ne s'éloignent pas de tes yeux. C'est vrai ça, mais le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtions là. Ce qu'il recherche, ce ne sont pas des gens qui cherchent la Bible, mais c'est des gens qui méditent la Bible. Car chaque fois que nous ouvrons notre Bible, Dieu, il nous parle. Dieu, il nous dit quelque chose. Et nous devons la méditer, sinon nous lisons pour rien. Nous lisons pour rien. Et Josué 1, verset 8, vous connaissez ce chapitre, hein? Voilà ce qu'il dit à Josué, le Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Voilà l'habitude d'un chrétien, d'un membre d'église. Hein? Méditer la parole de Dieu. Le mot hébreu pour méditer dans la Bible, voilà ce qu'il dit. Méditer signifie marmonner, bredouiller, c'est parler à soi-même. Ça veut dire ruminer. On lit la parole de Dieu et pendant la journée, on la rumine. Un peu comme ils font les vaches, n'est-ce pas? Hein? C'est quelque chose que Roland il nous dit chaque fois, ça. Hein? Hein? Les vaches, ils mangent l'herbe et pendant la journée, ils font remonter hein? et ils continuent à mâcher. Hein? Et c'est exactement ce que nous devons faire, chacun de nous. Nous devons méditer la parole de Dieu. Vous me direz, mais comment on fait pour méditer? J'ai pris un petit exemple, j'ai choisi un verset, Jérémie 29, 11. C'est un verset que vous croyez, qu'on répète très souvent. Voilà ce qu'il dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Comment méditer ce verset? Voilà. On n'a pas besoin de lire des chapitres entiers. Mais comment méditer cela? Prenons mot par mot. Et il dit, car je connais. Qui c'est ce je? C'est l'Éternel, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui me dit, je connais. Je connais tout ce que tu es en train de vivre. Je connais comment tu es. Je connais tout de toi. Alors, pourquoi? Pourquoi se faire des soucis lorsqu'on sait que le Dieu omnipotent, que le grand Dieu, le Créateur, il connaît toutes choses? Voilà pourquoi il dit, je connais. Il connaît toutes choses. Il sait ce que je suis. Il sait ce que je vaux. Hein? Comme il a dit Roland, la petite histoire, n'est-ce pas? Hein? Je te connais dans l'état où tu es, je t'ai vu et je t'ai aimé là. T'as pas besoin de venir bien propre et tout ça. Comme ça, non, il faut se présenter devant Dieu comme on est. et pas d'essayer d'apporter de la meilleure, d'être mieux que comme le Seigneur il nous a fait. Il y a beaucoup aujourd'hui dans ce monde des femmes et des hommes qui disent, ah, je me plais pas, j'aime pas le nez, j'aime pas les lèvres et tout ça, et ils changent les. Dieu il nous a fait comme on est et on doit nous accepter comme Dieu il nous a fait. Toutes ces choses-là, ce ne sont que les plaisirs du monde. Hein? Parce que la seule personne qui doit nous accepter, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et il a dit que je ne mettrai pas dehors tous ceux qui viennent à moi, je ne les mettrai pas dehors. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, il est rempli d'amour. Et il dit, continue le verset, il dit, je connais les projets. Il connaît pas, il connaît quoi Dieu? Mais les projets. C'est Dieu qui a préparé toutes choses. Et tout ce que Dieu a préparé, nous devons l'accomplir. Parce que c'est Dieu qui l'a préparé. On l'a vu ce matin, c'est la préscience de Dieu. Dieu, il connaît toutes choses. Et ce que nous devons faire le matin, au lieu de prendre notre portable, comme j'ai dit, hein, dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Car c'est cela qui compte pour Dieu. Hein? Les projets hein, que Dieu a préparés, c'est lui-même qui a préparé tout ça. Je ne suis rien. Dieu a tout préparé si on est un chrétien, si on est un membre d'une église fidèle et efficace. Dieu a tout préparé. On est venu au monde pour accomplir les choses que Dieu a préparées pour chacun de nous. Et ces choses, comme je dis toujours, ils vont être accomplies. Si moi, je ne l'accomplisse pas, il va se tourner vers Roland, vers Olivier. Mais la chose qu'il a préparée, elle va s'accomplir. Parce que Dieu, il l'accomplit. D'ailleurs, il nous le dit, hein, si la chose est tarde à venir, hein, attendez-la, parce que ça va arriver. Dieu, il l'a programmé. Et nous sommes dans les projets de Dieu. Il a des projets. Et ces projets de Dieu, ils doivent nous donner la raison de vivre notre propre vie. Vous voyez, il y a tellement de choses. Hein? Et il y a ce verset qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Hein? Est-ce que, parce que moi, je suis une grande personnalité? Non, c'est parce que j'ai un grand Dieu. Parce que j'ai un grand Dieu, car c'est lui qui fait tout. Moi, je suis rien. Il a tout préparé pour moi. J'ai qu'une seule chose à faire, c'est de lui obéir et de faire la chose qu'il me montre. Hein? Donc, lui, il intervient en toutes choses. Il dit, car je reconnais les projets que j'ai formés sur vous et les desseins que j'ai formés sur vous. Dieu n'oublie rien. Elle dit pas, ah, tiens, j'ai oublié, j'avais préparé ça pour Aldo, j'ai oublié. Non, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Rien n'échappe à Dieu. Et s'il a préparé quelque chose, cette chose, il va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu, il l'a préparé. Et s'il a préparé, c'est parce que nous devons la faire. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans une église, il suffit pas d'avoir des bons dirigeants, mais il faut qu'il y ait des membres qui interviennent aussi. Parce que l'église, c'est les deux, hein, un dirigeant et les membres. Un dirigeant seul, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, pour former une église, il y a les dirigeants, il y a les pasteurs, je sais pas quoi, mais il faut, pour former une église, il faut amener des membres, au moins 10 membres. Hein, donc voilà pourquoi il y a l'évangélisation. Et si on a les 10 membres, on peut fonder une église. L'église, c'est lorsque 2 ou 3 ils sont réunis à mon nom. Hein, mais là, c'est institution ici-bas dans le monde. Hein. Quels sont les projets que Dieu a préparés pour moi? Et il nous le dit, c'est des projets de paix. Projets de paix. Ce que Dieu a préparé pour nous, ce ne sont que des bonnes promesses, des choses dont nous avons besoin. Pas de mauvaises pensées, pas de mauvaises promesses, mais tout est bon pour nous. Hein? Tout est bon, parce que quand Dieu il me voit, il pense à des bonnes choses pour moi. Même si moi, je vois autour de moi des choses qui ne sont pas agréables pour moi. Mais Dieu, lorsqu'il me regarde, il ne voit que de bonnes choses. Voilà pourquoi, comme je dis ce matin, il nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Vous savez, notre vie ici-bas, c'est un apprentissage. Hein? Nous devons commencer d'ici-bas à vivre comme Jésus a vécu. Donc nous devons, c'est un travail, c'est le projet de Dieu. Il nous a destinés à cela et nous devons commencer ici-bas. Nous devons commencer ici-bas. Et il dit les mots paix, ça veut dire aussi prospérité, hein, dans la langue hébraïque. Prospérité, pas seulement des paix, mais des prospérités. Et la prospérité, qui c'est qui la donne? C'est Dieu. Et quand c'est qu'on a cette prospérité, c'est lorsqu'on a la paix dans notre cœur. Nous savons que Dieu, le Père, il connaît ce dont nous avons besoin. Donc Dieu, il nous le donne. Et c'est ça, être riche, de savoir que Dieu, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi les projets de Dieu, ils sont des projets de paix, projets de prospérité. Et cette paix, nous devons la vivre au plus profond de nous-mêmes. Voilà pourquoi je dis qu'un membre, il faut qu'il soit dans cette paix, dans cette joie, dans cette prospérité. Pas dans la prospérité dans laquelle il y a cet évangile de la prospérité qu'il est prêché beaucoup en Suisse, mais il commence à se répandre ici aussi en France, en disant « Je suis chrétien, donc je dois être riche. Je suis chrétien, je dois avoir la plus belle voiture. » Et toutes ces choses-là. Non, Dieu, à l'Église, aux chrétiens, aux membres, il nous a jamais promis que la richesse. Mais la vraie richesse, nous l'aurons dans le ciel. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. À l'Église, en tant que corps de Jésus-Christ ici-bas, à l'Église, il n'a jamais dit, donné la promesse qu'il serait, il sera grand, il possédera de grandes choses. À l'Église de Jésus-Christ, il n'a rien promis. La seule chose qu'il nous a promis et qu'il va tenir, c'est que le Seigneur va revenir nous prendre. Et c'est de cette paix-là, de cette prospérité-là que nous devons vivre, chacun de nous. Hein? Dieu, il désire notre bonheur. Voilà, juste un petit verset. Hein? Pas besoin de lire des chapitres entiers, mais le méditer. Nous parler à nous-mêmes de ce que nous venons de lire. C'est ça, méditer la Bible. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Pourquoi? Parce qu'on a Dieu. Et si on a Dieu, il n'y a aucun chagrin qu'il peut nous enlever cette paix. C'est ça, c'est ce que tout ce verset il nous dit. Hein? Avec Dieu, notre avenir est assuré. Toujours dans Jérémie, il nous dit, j'ai de l'avenir pour toi. Si vous n'avez pas Dieu dans votre cœur, quel avenir vous avez? Aucun. Aucun. Mais nous qui avons le Seigneur Jésus, notre avenir, c'est quoi? Qu'il va revenir nous prendre. Et ça, c'est une promesse. Du premier livre de la Bible, il y est marqué, juste le dernier. Et l'Église, lorsque le Seigneur dit « Je vais revenir bientôt », et l'Église qui dit ces mots, hein, « Maranatha, Seigneur, oui, viens bientôt, Seigneur ». Car c'est ce retour-là que nous attendons. Pas le retour en gloire. Le retour en gloire, c'est pour la suite. Hein, lorsqu'il va venir en tant que juge. Et nous serons avec lui. Et c'est avec lui que nous allons juger le monde. C'est ça que les gens, lorsqu'on dit cela aux gens, et si vous voulez, ils nous rionnaient même. Voilà. Et il y a même des chrétiens qui ne croient pas à ce qu'ils lisent dans la Bible. C'est ça les malheurs. C'est ça les malheurs. On se dit chrétien et on ne croit pas à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Oui, mais peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être avec Dieu. Dieu l'a dit, et je le crois. Et je le crois. Voilà pourquoi nous ne devons pas tergiverser ou faire des compromis. Nous devons dire et faire que ce que Dieu dit dans sa parole et pas autre chose. Une autre habitude des chrétiens, des membres, c'est que les chrétiens, les membres, ils fréquentent leur église. Ils fréquentent leur... S'ils sont membres, ils doivent fréquenter leur église. Je sais, on entend de plus en plus de chrétiens qui vont ailleurs. Voilà. Ils vont ailleurs, ils quittent l'église locale pour toutes sortes de raisons, hein. Pour toutes sortes de raisons, hein. Et ça, c'est un grand malheur, disons, pour justement pour les dirigeants. Les dirigeants, ils peuvent se dire, tiens, j'ai pas fait mon travail. Mais encore une fois, ce n'est pas que le travail du dirigeant, c'est le travail aussi des membres. C'est ensemble qu'ils doivent faire les choses. Et je vais vous lire ce qu'il a dit, Billy Graham. Vous connaissez tous Billy Graham, n'est-ce pas? Il est décédé maintenant, mais c'est un grand évangéliste, un grand serviteur de Dieu, hein. À propos de, parce que beaucoup de gens, ils disent, ah, je m'en vais d'ici parce que l'église, je sais, hein, ils font ça, ils vont ça, j'aime pas ça, hein. Je vais aller ailleurs chercher l'église parfaite. Voilà ce qu'il dit Billy Graham. Il dit, vous en avez qui boutinent dans une église à l'autre. Ils n'arrivent pas à se situer quelque part. Ils tournent à la recherche de l'église parfaite. Mais sitôt cette église parfaite trouvée, elle cesse de l'être à partir du moment où ceux qui boutinent en font partie, parce que personne n'est parfait. Il est normal que nous ayons des problèmes dans les églises. Ce qui n'est pas tout normal, c'est que nous n'en sortons pas de nos crises. S'il y a une crise dans notre église, dans les églises, je ne vais pas prendre ici l'église, ici, mais s'il y a une crise, une difficulté, il faut que les membres interviennent. Hein, vous connaissez l'histoire d'Esther, hein? C'est cette femme juive qui était en déportation, hein, et à un certain moment, la reine du roi, elle n'a pas fait ce que le roi voulait, alors il a chassé, et il a dit, trouvez-moi une autre jeune fille, et voilà, c'est Esther qui a été choisie, hein? Mais Esther, il ne pouvait pas se présenter devant le roi, sans l'autorisation du roi, il ne pouvait pas, hein. Et donc, à certains moments, il y avait quelqu'un qui voulait détruire le peuple d'Israël, qu'il était déporté là. Et alors, il y a cet homme Mardoché. Il a été voir Esther. Il a dit, tu es la reine. Elle a dit, va voir le roi pour que parle-lui de cette chose-là, que cet homme, il veut tuer ton peuple parce qu'il était juif. Et il a dit, mais je ne peux pas me présenter, comment veux-tu que je fasse? Et Mardoché lui a dit une seule chose, il a dit, qu'est-ce que tu en sais? Si tu es reine, pourquoi le Seigneur t'a mis là? Si tu es reine, peut-être qu'il t'a mis là juste pour ça, pour que tu puisses intervenir. Et c'est exactement dans l'Église, lorsqu'il y a un problème. Parce que en partant, ça ne règle pas les problèmes. Au contraire, il faut intervenir, pas en faisant mont et marée, hein, mais en y apportant ce que la personne elle peut apporter pour que la chose soit réglée. C'est ça, les dirigeants et les membres travailler ensemble. C'est ça que le Seigneur il nous demande de faire. Et c'est ça, une habitude, c'est une habitude. Vous savez, pour les dirigeants, encore une fois, je ne parle pas de moi, hein. Moi, mais pour les dirigeants, c'est pas, il faut pas qu'ils se découragent lorsqu'ils voient ces choses-là. Je vais vous lire ce qu'il disait celui qui me, à l'Institut biblique. Voilà ce qu'il disait. Vous vous destinez à bâtir de nouvelles églises. Vous aurez des problèmes, d'énormes problèmes. Et surtout, Si tout à coup vous n'avez plus de problème, alors remettez-vous en question. À quel niveau? Eh bien, tout simplement, il n'y a qu'au cimetière qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'au cimetière qu'il n'y a pas de problème. Si vous voulez des églises du type cimetière, allez-y. Vous n'aurez pas de problème des églises mortes. Mais si vous voulez des églises vivantes, vous aurez des problèmes. Parce qu'alors, vous aurez affaire à l'ennemi, et cet ennemi fera tout pour vous railler de la carte. Mais sachez que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. C'est ce qu'il a dit le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est très important et que nous devons vraiment avoir à cœur. C'est un groupe de personnes qui doivent travailler ensemble, et pas séparément, hein? Et aussi, une autre qualité, c'est que les chrétiens ou les membres, ils doivent marcher dans l'amour. Ils doivent marcher dans l'amour. Éphésiens 5. Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Hein? Un chrétien efficace, il faut qu'il développe l'habitude de marcher dans l'amour. C'est pas facile. C'est pas facile. Des fois. Parce que, des fois, il arrive des choses dans lesquelles nous n'avons pas cette force de pouvoir pratiquer le pardon comme le Seigneur il a fait. Mais nous devons marcher dans l'amour. Dans Romains 12, 21, hein, il dit « Quoi que on vous fasse, ne répondez jamais le mal par le mal, mais le bien. » Pourquoi répondre le bien? Je parle dans les chrétiens. Hein, pourquoi? Parce qu'il est mon frère, parce qu'il est ma sœur. Si je parle mal contre mon frère ou ma sœur, contre qui je parle mal? Mais contre Dieu. Pourquoi? Parce que le frère ou la sœur, il représente, il est mon frère. C'est pour lui ou pour elle, le Seigneur Jésus, il a donné sa vie. Vous vous souvenez ce qu'il a dit le Seigneur à Saul? Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Ben, je ne te persécute pas, je persécute l'Église. Mais si on persécute l'Église, ceux qui sont dans l'Église, tu persécutes. Le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous appartenons au Seigneur. Hein? Comme je vous ai dit, la marche dans l'amour n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on subit des injustices. Mais c'est difficile. Hein? Hein? C'est difficile. Mais si on marche dans l'amour, hein, ça doit devenir facile, comme il a fait le Seigneur. Je vous l'ai dit, sur la croix, bientôt on va nous souvenir, hein, lorsqu'il était sur la croix, il aurait pu réagir différemment, n'est-ce pas? En tant que Dieu, oh, si tu es Dieu, descends de la croix. Et il a dit la seule chose, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi, qu'est-ce que c'est que marcher dans l'amour? C'est marcher comme Jésus aurait marché. C'est l'imiter en toute chose. Et c'est cette marche-là que nous devons vivre dans l'Église locale. Pourquoi je dis l'Église locale? Parce que l'Église universelle, ça existe, oui. Mais l'Église locale, c'est la manifestation de l'Église universelle. C'est-à-dire qu'on peut voir les chrétiens à travers l'Église locale. L'Église universelle, on ne la voit pas, elle est invisible. Mais l'Église locale, oui, on la voit. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'Église locale que le Seigneur, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière, pas l'Église universelle. Parce que l'Église universelle, elle est invisible. Tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, ils rentrent dans l'Église universelle. Mais dans l'Église locale, on manifeste. ce que Dieu il a fait pour chacun de nous. Voilà pourquoi c'est très important. Et dernière, c'est le Seigneur, avant de s'en aller au ciel, il nous a dit d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et ça, un membre de l'Église, c'est quelqu'un qui prêche la parole. Pas en tant que prédicateur, parce que le Seigneur, il a donné des dons. Hein? Pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Mais annoncer la parole de Dieu, témoigner la parole de Dieu, c'est, nous pouvons le faire tous. Car le Seigneur, il nous a appelés à ça. Comme je dis toujours, vous avez remarqué que le Seigneur, il n'est plus là. Hein? Il n'est plus sur cette terre. Mais nous, oui. Et c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Voilà à quoi il doit avoir un membre dans une église locale. Annoncer la parole. Et vous savez, si on met en pratique juste ces sept habitudes, l'église locale, il marchera. Et c'est exactement ce que je vous souhaite à tous. Hein. Moi, le premier, que nous puissions mettre en place ces habitudes afin que l'Église elle puisse être manifestée là où nous a placés et qu'il ne soit pas juste une lumière qu'il est mise sous le lit et personne ne la voit. Au contraire, l'Église, il faut qu'il soit bien exposé, qu'il se fasse voir, pas pour se présenter elle-même, pour se glorifier elle-même, mais pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur nous aide à avoir ses habitudes. Et tout ça, encore une fois, pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.